vont se multiplier.
Chut, chut, chut. Venez, on va se mettre en place pour l'émission.
Ne fais pas de bruit. T'as pas le dos.
Uno, all, two, vous.
En 25 ans d'émission, je n'ai jamais raté une. J'ai jamais raté un rendez-vous avec mes auditeurs.
Say it again.
Uno, all, two, vous. Now, go away now.
Allez, action.
Action, pourquoi faire?
Une femme disparaît, on va lui trouver un faux coupable, son mari. Ce n'est pas du cinéma, mais la vraie vie l'a fait viller, revisiter dans un film une intime conviction, celle de son réalisateur pour le bénéfice du doute, érigé en valeur. Bonjour tout le monde et salut Laurent.
Bonjour Christine, bienvenue à toutes et à tous.
On a vu beaucoup de films sur des affaires judiciaires. Celui-là se démarque de tous les autres. Il introduit dans cette réalité une part de fiction. C'est vous. Bonjour Marina Foïs.
Bonjour.
Nora dans le film Une intime conviction d'Antoine Rimbaud. Un personnage obsessionnel qui incarne, comme le dit Rimbaud, le danger de nos certitudes. L'affaire Viguier, un homme acquitté deux fois pour le meurtre de sa femme disparue, est victime sans preuve et sans mobile de la rumeur et de la calomnie. Vous avez suivi de bout en bout cette affaire, on avait même écrit un livre. Bonjour Stéphane Durand-Soufflant.
Bonjour.
Chroniqueur judiciaire au Figaro. Vous allez nous raconter comment cette affaire prouve qu'il est possible de construire un coupable. Et pour compléter notre dossier d'instruction ce matin, un avocat. Bonjour Christian Saint-Palais.
Bonjour.
Et pas n'importe lequel, président de l'association des avocats pénalistes, s'il vous plaît. Vous avez vu le film et bien sûr, vous nous donnerez votre avis sur cette intime conviction au sens large. Enfin, les sorties de ce mercredi entre GIGN et Coccinelle, L'amour debout, Les estivants, Un grand voyage dans la nuit. Qu'est-ce qu'on a encore fait au bon Dieu? C'est parti.
C'est vrai que des moments où je suis vraiment dépressif, dans ton moment où ça va mieux. Et puis, il y a des moments où je pense au procès, dans ton moment où je me dis, bon, tu es innocent, donc tout le monde reconnaîtra que tu es innocent, c'est pas possible. C'est pas possible autrement. C'est pas possible autrement. On ne peut pas en combattre si on n'a pas cette certitude, si on ne sait pas que sa propre conviction et la réalité de cette innocence sera reconnue.
C'est la vraie voix de Jacques Viguier, accusé du meurtre de sa femme, disparu un 27 janvier 2000 à Toulouse. Il comparaît une première fois en 2009, il est acquitté, une deuxième fois en 2010, devant les assises des jurés d'Albi, à nouveau acquitté. Avant d'arriver au film, une question, Stéphane Durand-Soufflant, l'enquête est tout de suite orientée vers lui, à défaut de preuves matérielles, d'aveux, de mobiles sérieux, de témoignages aussi précis. Viguier n'a pas été poursuivi pour ce qu'il a fait, mais pour ce qu'on aurait voulu qu'il fasse presque.
Et puis surtout, l'enquête ne s'est intéressée qu'à lui.
Oui.
Et c'est là ce qui va devenir pour le film aussi un ressort dramatique, mais qui est au début une anomalie judiciaire. C'est-à-dire qu'on est, enfin, c'est très classique dans tous les films, hein, vous avez le mari, la femme, l'amant, l'un des trois disparaît, ben on s'intéresse aux deux autres.
Oui.
Et là, l'enquête est partie à 100 à l'heure sur Viguier, qui est un personnage curieux, hein. Il faut reconnaître que ses attitudes sont tout à fait désarmantes. On a du mal à le saisir.
Mais le procureur de lui-même, a dit quelqu'un.
Oui, ouais, ouais. Oui, c'est le procureur de lui-même, ouais. Absolument. Ouais.
Est-ce que, question à Christian Saint-Palais, est-ce que cette affaire est un exemple de dysfonctionnement de la justice?
Ben, je ne dirais pas forcément, puisqu'il a été acquitté.
Oui, bien sûr, mais...
Finalement, ça
oui,
a fonctionné
c'est vrai.
In fine. C'est aussi ce qu'il faut retenir, tout de même.
Ouais.
Mais c'est sans doute un dysfonctionnement de l'enquête. L'essentiel, c'est que des hommes aient pu mettre en exergue, et des professionnels aient pu mettre en exergue ces dysfonctionnements de l'enquête, et aient pu souligner les carences des éléments probants qui y étaient apportés,
ouais.
Et que les conclusions en aient été tirées. Mais le film, d'ailleurs, rappelle le vertige que l'on doit avoir face aux risques qui existent. Vous savez, il a été acquitté, mais rien n'était acquis. Hein, cet homme innocent aurait pu être condamné.
Le second procès a permis quand même à l'instruction de verser au dossier les écoutes téléphoniques. C'est un des ressorts et du film et du dossier quand même.
Oui,
c'est un désastre judiciaire quand même.
Non, mais vous savez que ces écoutes téléphoniques sont là depuis le début.
Mais oui,
la question que cela pose, c'est que personne ne les a exploitées.
Voilà.
Y compris, semble-t-il, la défense.
La défense les avait demandées et elle ne les avait pas obtenues à l'époque. C'était Henri Leclerc en première... Le premier avocat,
ouais.
Qui n'est pas quand même n'importe qui,
non.
Des demandes avaient été faites et on n'avait pas accédé à cette demande. Et c'est le président au deuxième procès, enfin le film est très très fidèle à la réalité hein, de bout en bout, le président a décidé un peu, assez peu de temps avant le procès, voilà, bah, je ne sais plus quoi, il y a de centaines d'heures, voilà.
Et il y a des choses très très intéressantes dans les écoutes.
Qui peut le croire, mais la loi ne prévoit pas que la défense... a accès à ses écoutes. C'est incroyable.
Mais oui.
Alors que la plupart des dossiers reposent sur des sonorisations de bars, de voitures, d'écoutes téléphoniques.
Oui.
Et les gendarmes les écoutent et vont dresser des procès-verbaux, des conversations qu'ils estiment utiles à la manifestation de la vérité. Et en réalité, bien sûr, ils vont dresser des procès-verbaux, des conversations qu'ils estiment utiles à la thèse qui est la leur. De bonne foi, d'ailleurs. Mais la thèse qui est la leur. Et la défense n'a pas de levier juridique pour imposer le juge de communiquer toutes ces pièces. Et donc, nous nous battons sans cesse pour les obtenir. Et parfois, un magistrat qui peut le faire, bien sûr. Mais parfois, des magistrats donnent à la défense les pièces, tous les scellés. Ce qui pose un autre problème, c'est la capacité de travail pour les écouter. Et c'est tout le film, d'ailleurs, de trouver qui va les écouter, qui va les exploiter et qui va les utiliser pour défendre. Et
sachant qu'il y a toujours un piège aussi, même pour la défense, quand elle obtient les écoutes, elles sont versées à tout le monde. Et il peut y avoir dans ces écoutes un truc qui va être très embarrassant pour la défense qu'on a fait la demande.
Les écoutes, l'arme maîtresse donc, qui vont être confiées à Nora Marina Foïs. Mais d'ailleurs, c'est le réalisateur Antoine Rimbaud qui a trouvé le deuxième avocat qui est allé voir Dupont-Moretti. C'est vous qui allez le voir dans le film. On écoute un extrait.
Maître Dupont-Moretti ?
Bonjour, madame.
C'est moi qui vous ai contacté à propos de l'affaire Viguier.
Ah, ma secrétaire vous a répondu, j'ai rien à voir avec l'affaire Viguier. Renseignez-vous un peu, c'est votre boulot.
Non mais attendez, je suis pas journaliste. Je vais vous proposer de reprendre l'affaire.
Il est jugé où, en appel, Viguier ?
À Albi.
Président d'Albi, je le connais, je lui serre plus la main.
Pourquoi ?
C'est pas un honnête homme, il m'en a déjà condamné deux qui avaient été acquittés en première instance. C'est quand ?
C'est en mars.
Mars ? Non, je peux pas, c'est impossible.
En vrai, ils savent même pas si elle est morte. Hein. Si ça se trouve, elle est partie. Y a rien dans le dossier, c'est vide que de la rumeur. De toute façon, la presse a été dégueulasse. Mais y a pas de cadavre, y a pas de preuve, y a pas de mobile.
Moi, j'ai pas une seconde. Et pardon, mais enfin, on rentre pas sur un dossier comme ça au dernier moment. Allez, au revoir. Oui ? Quand ?
Trop longtemps, nous avons supporté l'irresponsabilité de certains parents.
Vous comprenez pas le français, vous ?
Prenez ça, il y a tout dedans.
Si je prends une affaire, je commence par lire le dossier.
Mais c'est mieux que le dossier, j'ai tout décortiqué du premier procès.
La responsabilité des parents.
Et c'est quoi ces méthodes-là ?
Vous savez ce qu'on lui reproche à Viguier ?
Écoutez, on m'attend à mon tour depuis une heure, descendez.
Eh ben, laissez-moi garder ma voiture, j'en ai pour deux secondes. Je trajet avec vous, je vous explique.
Non, sûrement pas, non.
Je vous parle d'une erreur judiciaire, là.
Bon, ça suffit maintenant, descendez. Descendez.
Marina Foïs, vous avez accepté tout de suite ce film parce que vous êtes passionnée par les assises depuis très longtemps, en fait,
oui.
Par les affaires.
Oui, j'allais aux assises quand j'avais 20 ans.
Oui.
J'allais assister à des procès, ne me demandez pas pourquoi, j'étais curieuse,
je vous demande
ça
pas.
M'intéressait. Et puis après, il se trouve que j'ai été... une personne très proche de moi a été victime d'un viol, donc on est jugé aux assises. Mmh. Et donc là, j'ai fait le procès en entier, et je suis sortie peut-être un peu comme le personnage de Nora, absolument abasourdie,
oui.
Parce que j'avais vu, entendu, très intimement choquée, bouleversée. Et comme, d'un autre côté, j'adorais les films de procès, j'adore 12 hommes en colère, j'adore la vérité, je trouve que... Voilà, du coup, c'est quelque chose qui m'habite, qui m'intéresse, qui me questionne très profondément à l'endroit du cinéma, mais aussi à l'endroit de la citoyenneté, de la
vie. Vous connaissez le code de procédure pénale, il paraît.
Non, oh non, non.
Non,
non, mais je... Non, pas du tout. Mais d'ailleurs, je pense qu'on est très désarmés parce qu'on ne comprend rien quand on assiste à un procès d'assises. C'est-à-dire que, bah oui, techniquement, il y a l'espèce de ce qui se passe entre le juge, les avocats, la défense, la partie civile. Bah, c'est très nébuleux. On est très désarmés face à ça, je trouve. Même quand on est au cœur de l'histoire, quoi.
Vous accepteriez d'être juré dans la vraie vie ?
Ah bah oui. Alors là,
c'est
sûr. Hein ?
C'est votre rêve.
J'aimerais bien. Après, là, il y a un truc qui est chiant, c'est que voilà, c'est la présentatrice de Burger Quiz qui est jurée. Enfin, je veux dire, la notoriété est un peu chiante. Je pense que c'est chiant parce que ça enlève de la spontanéité au rapport, notamment avec les autres. Bon, enfin bref, on s'en fout. De toute façon, on n'en est pas là. Mais moi, oui, parce que j'aurais une discipline d'objectivité qui serait. Parce que depuis que j'ai assisté à ce procès-là, je m'interdis. Je n'ai jamais d'opinion sur un fait divers dont je ne connais pas le dossier. Jamais. Je me l'interdis. Je véhicule pas de merde. Je m'engouffre pas dans le prêt-à-penser, dans les a priori. Mais c'est une discipline parce que je suis comme tout le monde. J'ai des impulsions et de la violence en moi. Mais je me l'interdis. Je serai un super juré.
Alors, Nora, cette part fictionnelle, elle est passionnante, question de juriste, parce que elle n'entrave pas la réalité. Elle réinterroge l'affaire, en fait, ce personnage, Nora.
Oui, mais elle est inquiétante. Et c'est évidemment qu'il faut que ce soit un personnage un peu intéressant. Et de fait, il l'est. Et elle devient. Et il y a une scène clé dans le film, c'est la scène où Dupond-Moretti gourmet la morigène de façon extrêmement violente,
oui, en lui disant. On l'écoutera plus tard. Cette
voilà, scène-là, ouais. Ça c'est clé, parce que dans toutes les histoires, on les voit souvent au palais. Il y a ce que nous on appelle les fous judiciaires. C'est-à-dire, en général, c'est leurs affaires. Donc on les reconnaît, ils ont des grands sacs en plastique, plein de procédures, et ils vous poursuivent dans les couloirs. Ils disent oui, erreur judiciaire, machin. Et en général, bon, on les écoute pas, ces gens. Mais dans certains cas, il y a d'autres affaires comme ça. Il y a l'affaire Bamberski, par exemple, je pense à ce père qui avait fait une croisade pour faire condamner le meurtrier de sa fille. Bon, il y avait des moments où on pouvait penser qu'il était un peu fou. Il était totalement obsessionnel et cet homme avait raison.
Nora est obsessionnelle, quitte à lâcher son boulot, ne plus s'occuper de son fils. C'est une forme de folie quand même.
Ouais, c'est un débordement, mais je pense que on demande comment dire. Oui, elle se fait piéger par ses émotions. Elle passe de l'autre côté, mais en même temps, comme tout le monde déborde dans l'affaire, en fait, il y en a aucun qui reste à sa place. Donc, je pense qu'elle est embarquée par un mouvement. On entend des choses. C'est pour ça que le film il est passionnant. Mais c'est vrai que dans les témoignages qu'on saisit de la folie, elle circule dans l'affaire. Parce qu'évidemment, Viguier est un coupable idéal parce qu'il n'est pas ce qu'on attend. Il n'a pas les émotions qu'on attend qu'il ait. C'est-à-dire qu'il faudrait être un cliché de père et pleurer. C'est pas comme ça la vie. Il faut vraiment avoir rien vécu pour ignorer que quand on est dans des situations très dramatiques, on ne réagit pas comme il faut.
D'ailleurs, il n'a pas remué les terres pour retrouver sa femme.
Non, mais c'est justement toute l'énigme et tout l'intérêt de ce dossier absolument hors du commun. C'est-à-dire que Jacques Viguier ne se comporte jamais comme la caricature qu'on voudrait qu'il soit. Et alors, comme le disait Marina, il n'est pas un mari éploré, mais en même temps, il vivait sous le même toit, mais chacun sait que le couple n'existait plus. Ouais. S'il avait été éploré, on aurait dit qu'il ment. C'est-à-dire, c'est la position impossible de l'accuser.
C'est ça. Et puis son inaptitude à vivre le truc peut être la preuve d'une émotion qui le terrasse. Ça pourrait être interprété complètement autrement. Moi, une fois, j'ai été braquée par un flingue dans la rue, nous étions deux, la personne à côté de moi s'est jetée sous la table du café où on était et moi je n'ai pas bougé, sidérée. Enfin, ce que je veux dire c'est que ma réaction est débile, alors on pourrait l'interpréter, elle avait vraiment envie de se prendre une balle. Bah non en fait, et je pense que Viguier, il est sidéré, dépassé, et puis peut-être qu'il n'est pas éploré, c'était une histoire qui était à la fin. Je ne sais pas comment dire, en fait c'est apporter sans arrêt des petites réponses à des grandes questions. Voilà, c'est ça qui va pas dans le, je trouve, dans la lecture qu'on a de lui.
Professeur de fac et aussi amateur de cinéma, Viguier, on va écouter sa première audition.
Mesdames et messieurs les jurés, j'attire votre attention sur le fait que nous ne jugeons pas qu'un acte, avant et surtout nous jugeons un homme. Bonjour, monsieur Viguier.
Bonjour, monsieur le président.
Monsieur Viguier, pendant ces 3 semaines, nous tâcherons d'être le plus exhaustif possible. Mais avant, je voulais revenir sur un point. Vous êtes cinéphile et j'ai lu tout ce que vous avez publié sur le cinéma sans rien trouver sur Hitchcock. Pourtant, on vous a prêté une véritable passion pour le cinéaste anglais.
Non, c'est comme le cours sur le crime parfait, en fait.
Approchez-vous du micro, monsieur Viguier. Rapprochez-vous du micro, monsieur Viguier.
Oui, désolé. Je disais que c'était comme...
Vous pouvez l'allumer aussi.
Excusez-moi. Je disais que c'était comme le cours sur le crime parfait. En fait, ça fait partie de la rumeur médiatique. Parce que j'aime bien Hitchcock, mais je suis loin d'être un spécialiste. Moi, je préfère les westerns et les comédies musicales.
Mais il n'y aurait pas, par hasard, un film de Hitchcock auquel votre affaire vous ferait penser ?
Une femme disparaît ?
Oui, mais moi, je pensais à un autre. Vous ne voyez pas. Un faux coupable, sorti en 1957, année de votre naissance.
Grand dialogue vrai et joué merveilleusement par François Fenner et Laurent Lucas. Christian Zabalet, vous avez été un peu ébahi par cette prestation. Il vous a fait reconnaître encore mieux Viguier le vrai.
Oui, je suis très impressionné par le jeu d'acteur de, de Lucas. J'ai suivi ce procès de loin, par les chroniques notamment de Durand Soufflant. Mais je ne saisissais pas ce personnage, qui est quand même très énigmatique, hein, et qui est très singulier. Je trouve qu'il l'incarne et qu'on arrive à comprendre la méprise qui a pu exister. Vous savez, le problème d'une affaire criminelle, c'est que tout le monde est en quête d'une solution. Il faut une réponse. Et la justice, d'ailleurs, c'est un peu son but. Citoyens, soyez tranquilles, un crime a eu lieu, mais nous faisons ce qu'il y a à faire. Et le criminel ne rôde plus. Donc le procès est organisé. La logique, quand même, quoi qu'on dise, tout le monde va s'exprimer, tout le monde va se défendre, mais la logique, c'est quand même, il faut trouver au terme de ces 3 ans d'enquête, le coupable. Et quand un type comme Viguier, vraisemblablement, lui ou un autre, ne correspond pas au code dans un procès qui repose sur le verbe. Oui. Vous savez, vous avez beaucoup d'accusés, Viguier est un intellectuel. Donc on pourrait penser qu'il maîtrise le verbe. Mais il a une personnalité particulière, semble-t-il, qui fait que les codes, il n'est pas forcément tout à fait adapté. Et donc on va le regarder comme un type étrange. Et l'étrangeté, on peut l'interpréter comme un type, en disant c'est un type qui ne dit pas la vérité, qui a donc des choses à cacher. La plupart du temps, ce sont des accusés qui ne maîtrisent pas le verbe par un déficit intellectuel ou un déficit de maîtrise, qui ont une autre culture que celle des mots, et qui donc ne sont pas adaptés. C'est dur de trouver sa place.
Il se permet même de faire du second degré. Il se réjouit d'avoir habité rue de l'Arlésienne par rapport à la disparition de sa femme. Personne comprend autour de lui. En fait, tout le monde lui dit, mais tais-toi.
Bien sûr.
Oui, et il le fait. Il y va.
Sauf que c'est très malhonnête parce que l'humour, c'est une arme qu'on a tous pour se sauver, pour se sortir de la réalité. Comme dit Gary, c'est l'affirmation de la supériorité de l'homme sur son destin. Donc lui, qui est double victime, en fait, il aurait pas le droit au registre de l'humour. C'est dégueulasse.
Et le rôle dans la police, dans l'affaire, je m'adresse à vous, Stéphane Durand Soufflant, c'est quand même dingue, la proximité qu'il y a eu entre l'amant et la police. Comment est-ce possible? Et on raconte même, je crois que c'est vous qui le racontez, que pour sa première nuit de garde à vue, à Viguier, l'amant est venu le voir.
Alors ça,
comment c'est possible?
C'est un des grands mystères de ce dossier. Plein de rumeurs ont couru, on va pas les relancer ici, mais tout le monde se demandait pourquoi l'amant de Suzy avait en fait table ouverte à la police judiciaire à Toulouse. Il y a cet échange qui est repris dans le film absolument invraisemblable où il part à un commissaire divisionnaire et qui lui dit ouais, j'ai des affaires à moi dans la maison de Viguier et est-ce que je pourrais aller les récupérer, et le gars lui dit en droit c'est une violation de domicile, mais bon hein, pas vu pas pris. C'est complètement fou quand même.
Ouais.
C'est complètement fou. Et c'est une des clés aussi du fait que ce dossier représente une énigme saisissante. Il est clair que toutes les portes n'ont pas été fermées, comme on dit, toutes les pistes n'ont pas été explorées. Voilà. Mais ce que montre aussi très bien le film, et heureusement, c'est que l'amant est un personnage comme les autres, c'est-à-dire qu'il aurait dû évidemment être un peu interrogé, etc. Mais on n'a rien sur lui. Rien ne permet de penser qu'il y ait pour quelque chose dans cette histoire. Il n'y a aucun mobile, notamment.
Face à vous, il y a un grand acteur, Olivier Gourmet, qui incarne Dupont-Moretti. C'est une drôle de personnalité. Vous en parlez dans votre livre, Stéphane Durand Soufflant. Le Librius Lillois, au lieu de flatter les magistrats, il les invective. Il arrive déjà avec pas mal de succès aux Assises, d'ailleurs, derrière lui.
Oui, à l'époque. Il est déjà très connu. Bon, c'est un personnage totalement à part dans l'univers judiciaire. Hein. C'est un peu un modèle unique. Et heureusement, ce serait fatigant. C'était tous comme lui. Mais il a une. Et ce que montre très bien Olivier Gourmet dans le film, c'est la prestation de Gourmet est vraiment époustouflante. Hein. Le personnage du Pont-Moretti se mélange il est parfois rogue, parfois très sympa avec le personnage de Marina Foïs. Il y a des échanges très complices. Mais c'est cette espèce de bulldozer qui est obsédé par la réussite de son boulot, qui est hanté par la crainte de perdre un procès. Il n'aime pas ça, en vrai, à la fois pour lui et pour le client.
Aucun avocat n'aime ça.
Non, mais il y a des clients qui sont fichés un peu, c'est le boulot. Hein. Un dossier chasse l'autre. Et Dupont, il n'est souvent pas comme ça.
Marina.
Oui, enfin, je dirais, moi je l'ai vu plaider, je l'ai suivi une affaire aux Assises l'année dernière. Pour préparer le film, évidemment, j'ai entendu plein de fois sa plaidoirie dans le film à Dupont-Moretti. Je trouve que on peut dire ce qu'on veut sur la forme, sur la personne qu'il est, le personnage public qu'il est et tout. Néanmoins, je trouve que Il est d'une grande finesse dans ses plaidoiries, les arguments, comment il articule la réflexion. Et moi, je l'ai vu réintroduire vraiment du sens dans l'histoire, aussi de la morale, questionner au bon endroit avec une grande finesse. Et je pense que c'est ce qui sauve dans un procès. C'est-à-dire que le début de la reconstruction des uns et des autres et des douleurs et de passer après la tragédie, ce serait de remettre un peu de sens dans l'histoire, et je trouve qu'il le fait avec une grande délicatesse. Reprochons ce qu'on veut au personnage médiatique, mais je pense qu'il y a forcément quelque chose qui est une profonde sincérité ou un espoir solide dans l'humanité qui le meut, parce que je peux pas croire au cynisme de Dupond-Moretti et qu'il soit juste mu par l'envie de gagner des procès. J'y crois pas.
Christian Zapalet, comment il est considéré dans le milieu des pénalistes, justement, parce qu'il est une forte personnalité. Il peut en énerver certains, j'imagine.
Oui, bien sûr. Mais enfin, il est quand même de moins en moins controversé. Je crois qu'il faut s'incliner d'abord sur le talent de ce garçon. C'est un personnage unique qui, d'après moi, a bouleversé quand même la façon de défendre aux assises, qui a inventé un nouveau mode de défense. C'est un type brutal, violent, parce qu'il faut être brutal et violent pour défendre, mais qui, en réalité, est très sophistiqué. Vous évoquez la finesse de ce garçon. Ouais. Et c'est un garçon, et c'est ça tout son grand talent. C'est il ne perd pas ses jurés. Vous voyez, un type brutal va perdre ses jurés. Vous savez, si on est très sommaire...
Il est de leur côté, surtout. Il est souvent de leur côté.
Et eux, ils les gardent.
Oui.
Et ils gagnent. Gagner, ça veut dire il porte au rang de vérité judiciaire la vérité de son client. Il a obtenu des acquittements, ça veut dire qu'il sait faire. Il a obtenu des acquittements pour des hommes innocents, peut-être pour des hommes d'ailleurs qui ne l'étaient pas, mais des hommes qui devaient être acquittés, et qui sans lui, pour certains, j'en suis sûr, auraient été condamnés. Donc c'est un type pour lequel j'ai une admiration infinie, c'est un très très grand avocat. Comme l'a dit Durand Soufflant, il est unique. Le problème actuellement, c'est que beaucoup essaient de lui ressembler dans la méthode. Mais quand on n'en a pas le talent ni les qualités, ça peut offrir des défenses catastrophiques. Hein, je vous dis, c'est cette sophistication qu'il ne faut pas oublier, qui n'apparaît pas immédiatement, et un humanisme absolument extraordinaire, qui affleure derrière la violence et le type blessé.
Est-ce qu'il est un peu comme un acteur? Il construit une dramaturgie aussi, un peu dans Le Prétoire, non?
Oui, il sait faire. Vous avez vu que à plusieurs moments dans le dossier, il essaie d'imposer son rythme. La défense, dans un procès, cherche à prendre sa place. La place ne lui est pas naturellement offerte. Le procès est organisé, encore une fois, je le dis, vraiment, pour que l'accusation aille jusqu'à son terme. Tout le monde est sûr que le type qui est dans le box est coupable. Mais enfin, il est détenu depuis 3 ans. Des juges ont estimé que sa place était en prison, la plupart du temps. Tout le monde ne s'est pas trompé. Et Dupond-Moretti, à un moment donné, fait asseoir Ben Guigui, qui incarne Spinner, l'avocat de la partie civile. Asseyez-vous, pour ne pas que la partie civile prennent la parole. Il essaie de dire au président, je vais interroger maintenant. Le président lui dit, cette question a déjà été posée, j'ai mon cheminement.
Oui.
Dupond-Moretti a su imposer ça. C'est-à-dire, l'avocat pénaliste ne peut pas être trop poli. Il faut connaître les codes, il faut les maîtriser, mais il faut bousculer. Et Dupond sait bousculer. Dupond d'abord a gagné en faisant peur. Maintenant, sa technique est connue. Moi, j'avais organisé un cours à l'école d'avocats, par exemple, pour les jeunes, avec un président de cour d'assises, et il avait posé comme condition que l'autre invité ne soit pas Dupond-Moretti. Tellement, ça c'était il y a 10 ans. Beaucoup de temps a passé maintenant, Dupond-Moretti va à l'école de la magistrature, mais c'est ça qui nous a appris. Hein, à prendre sa place, et c'est ce qu'on voit aussi dans le film.
Oui, et par exemple, on va passer un extrait où il va travailler au corps un témoin qui est un témoin capital, qui est la babysitter.
Il est rentré, mais il est resté qu'avec moi.
Pourquoi ne l'avez-vous jamais dit?
Parce qu'il me l'a demandé. Il avait peur qu'on dise qu'il avait apporté des choses. Enfin, pas vraiment, il a pas dit ça comme ça, mais que ça ait des conséquences sur l'enquête.
Ça ne vous a pas gêné depuis 10 ans?
Si, mais à chaque fois, il me disait que ça pouvait que faire des problèmes. J'avais 18 ans, je me suis laissée influencer.
Et pour le sang, madame, les traces de sang dans la baignoire, vous les avez vues?
Ça, oui.
Mais alors, lui aussi les a vues, puisqu'il ne vous a pas quitté?
Je crois pas.
Je vous supplie de nous dire la vérité, madame. Vous ne dites rien pendant 10 ans. Vous ne dites rien en première instance. Et vous voudriez nous faire croire que lorsque vous voyez du sang, vous ne dites rien à Durandet qui vous accompagne?
J'ai jamais dit « je suis certaine que c'est du sang », j'ai dit « je pense ».
Le sang, c'est un élément accablant, madame. Vous pouvez imaginer une seconde que sur vos déclarations, ça se passe mal pour Jacques Viguier? Que sur vos déclarations, cet homme soit condamné? Que sur vos déclarations, vous priviez Clémence, Nicolas et Guillaume de leur père?
Le grand Olivier Gourmet face à l'incroyable actrice India Air. Oui, vous vouliez dire quelque chose?
Je veux dire que le vrai moment où ça a eu lieu à Albi, c'est un moment absolument inouï. Dans une carrière de chroniqueur judiciaire, ouais. Et comme ça, il n'y en a pas beaucoup.
Ouais.
Parce que la babysitter, on l'avait vue au premier procès à Toulouse. Elle avait été restée, j'ai retrouvé dans mes notes, je crois, un quart d'heure en tout et pour tout là-bas. Rien à dire. Et là, elle revient et Eric Dupond-Moretti n'avait prévenu personne que lui, il avait trouvé la pépite. Personne ne le savait. Les journalistes, beaucoup n'étaient pas là. Et c'est, pour nous, c'était un témoignage de routine. Et ce qui est extraordinaire dans cette scène, c'est que nous, on suit ça. Puis au début, il lui pose ses questions sur son ton un peu rogue, là. En fait, c'est un peu votre beau-frère, Durandet, etc. Bon. Et au bout d'un moment, comme ça dure, on se dit, mais qu'est-ce qu'il lui veut à cette fille qui n'a rien à dire? Et à un moment, on est tous là, toute la salle est là. On se dit, mais qu'est-ce qu'il cherche? Parce qu'on vous comprend bien. Ouais. Il se rapproche d'elle, donc Dupont, il mesure 1m88 pour l'anecdote. La babysitter, beaucoup moins. Il y avait cette espèce, vous voyez, de compresseur qui arrive. Et la fille se ratatinait. Elle avait les mains dans le dos. Elle se ratatinait. Et elle comprend, elle, à un moment, que ça tourne mal. Elle croit qu'elle vient pour une formalité. Elle comprend que ça se passe pas bien. Mais personne ne sait. Parce qu'il y a que lui qui a écouté. Qui sait ce qu'il y a dans les écoutes. Et au moment où elle lâche que Durandet était là, il y a dans la salle, vous savez, il y avait le « Oh !» Et là, et ce qui est vrai, c'est qu'à un moment, Spinner, donc l'avocat de la partie civile, qui est un très très bon avocat pénaliste, il comprend, lui, que là, il se passe un truc. Et il se lève, il essaye de faire ce que font les bons pénalistes, une diversion. Il y a n'importe quoi, mais pour couper. Et Dupont lui dit « Non, pas maintenant, là. » Et il a ce... Et l'autre... Ce rassied, ce qui est fou, parce qu'en général, il ne parlait pas sur ce temps. Non, là, il y a une espèce de la salle est vraiment captivée à la démonstration incroyable de l'avocat.
D'ailleurs, Spinner, vous en parlez dans votre livre, vous dites, c'est dur comme phrase, Spinner a beaucoup d'admiration pour Spinner.
Oui, marquez ça, c'est un peu, ça prouve qu'il est un bon pénaliste, parce que c'est assez partagé dans la profession. Mais c'est vrai, bon, mais c'est un très bon avocat. Il est redoutable, hein, très intelligent. Il a une science du, il sait questionner les témoins. C'est souvent à ça qu'on les voit, les bons avocats. Il sait le bon moment. C'est un redoutable pénaliste, hein.
Christian Saint-Palais, l'intime conviction, c'est une impression?
Vous savez bien que non. C'est tout le risque, d'ailleurs. Non, ça n'est pas le... ça n'est pas une simple impression, et d'ailleurs, lorsque les jurés vont se retirer pour délibérer, on leur lit un avertissement, et la dernière phrase va être « Avez-vous une intime conviction ?» C'est ainsi qu'ils vont se déterminer, mais le mot juste avant, c'est l'impression que les éléments qui ont été échangés par les uns et les autres ont fait sur votre raison.
Oui.
Et donc l'intime conviction se bâtit. D'autant que maintenant, les arrêts de cour d'assises doivent être motivés. Donc, vous voyez, il y a même un raisonnement à suivre après que la décision a été prise. Donc, non, l'intime conviction, c'est évidemment en conscience, mais c'est une conviction qui doit être étayée par des éléments suffisamment convergents pour qu'on puisse déclarer la culpabilité d'un homme.
D'ailleurs, on va finir avec cet extrait, entre les deux, entre Marina Foïs et Olivier Gourmet, à l'extérieur, et vont se cogner effectivement deux propositions. Elle, qui veut un petit peu accabler l'amant, qui veut trouver un coupable, et lui qui va lui expliquer ce que c'est que sa défense à lui.
Il a gardé le sac pendant 8 jours parce qu'il avait besoin des numéros pour son petit complot, là, et après, il a été planqué dans l'armoire, voilà.
Peut-être, mais tu vas beaucoup trop vite en devenir.
C'est Durandet qui l'a tué, qu'est-ce qu'il vous faut de plus?
Mais tes preuves, un mobile.
Mais pour Viguier non plus, ils en ont pas de mobile.
Mon boulot, c'est pas de trouver un coupable. Ok, Durandet dit les pires dégueulasseries, il a la calomnie compulsive, mais ça en fait pas un assassin, bordel.
S'il a remis le sac, c'est qu'il l'a tué.
Absolument pas, ça veut dire qu'il est prêt à tout pour charger Viguier. Et Suzy, elle peut toujours s'être barrée. Écoute-moi. L'accusation est bâtie sur une hypothèse. Si on se contente d'en présenter qu'une autre, les jurés choisiront la plus convaincante. Et crois-moi, ce ne sera pas la tienne, parce que la leur, c'est celle de l'opinion publique depuis 10 ans. Le doute, c'est pas qu'une possibilité, c'est toutes les possibilités. Si tu comprends pas ça, je peux rien pour toi.
Faut citer Philippe Huchin, l'amant,
bien sûr.
Le Durandais, et qui est un acteur prodigieux pour incarner un personnage légèrement dégueulasse.
Oui. Quelle est votre intime conviction?
Je n'en ai pas. Je refuse d'avoir un avis, d'avoir une idée de. C'est justement tout l'intérêt du film, parce qu'il y a un malentendu quand même entre le grand public et la justice. Vous parliez du besoin de coupable, ça rassurerait tout le monde que des têtes tombent, ça aurait du sens, comme ça, la société serait bien foutue, tous les coupables seraient punis. C'est pas comme ça. Et moi, je me refuse d'avoir une opinion, d'avoir une vérité quand elle n'existe pas.
Stéphane Durand, soufflant, vous qui avez tout suivi, écrit un livre. Non mais c'est vrai, ça vous obsède un peu cette affaire quand même.
Ah bah c'est une affaire hors du commun, évidemment, dans une carrière de journaliste. Mais la scène dont on a entendu l'extrait là, est capitale. Il y en a une autre un peu dans le même registre.
C'est la matrice du film en fait.
C'est ça qui fait que le film est bon. C'est pas un film à thèse. C'est pas un film qui dit le vrai coupable, c'est pas celui-là. C'est un film sur le doute, c'est un film aussi sur qu'est-ce que c'est que défendre un homme. Et là, le Gourmet, le dialogue est très très bon, on dirait qu'il a été écrit par un avocat. C'est la présomption d'innocence, et c'est très important de rappeler tout ça, que c'est on ne défend, généralement je parle sous le contrôle de Christian Saint-Palais, on défend rarement en tant qu'avocat un homme en accusant un autre, rarement efficacement, c'est pas comme ça que ça marche. Et Gourmet Dupont-Moretti a absolument raison de mettre en garde Marina contre cette espèce de truc. Mais oui, c'est lui. Mais d'où ça sort? C'est fondamental dans le film. Et la scène est formidable.
Ouais.
La façon dont il dit, si t'as pas compris, ça t'as rien compris.
Est-ce que Viggy a vu le film?
Je crois qu'il l'a vu. Je suis allé à une projection, il l'a vu, je crois.
En tout cas, les enfants et la compagne de Viggy à l'époque, pendant les 10 années d'instruction, celle qui a beaucoup soutenu toute cette famille, qui a été, je crois, carrément héroïque, elle l'a vu, ils ont été bouleversés. Bah, pour eux, c'est un, comment dire, je pense qu'on perçoit bien leur douleur. C'est-à-dire, eux, c'est la double peine pour les gosses. Hein.
Oui.
Leur mère disparaît. On accuse le père, 10 ans d'instruction. Heureusement que il y a eu les deux acquittements, mais ils ont payé double ou triple, quoi.
Christian Saint-Palais, c'est important un film comme ça, justement, pour évoquer ces notions-là si importantes de la justice.
Mais oui, nous sommes sensibles, nous qui nous battons tous les jours, pour rappeler ces principes. Je suis sensible à ce qu'un film de qualité puisse véhiculer ses idées auprès d'un grand public. Je suis sûr que ce film peut rencontrer un grand public, et donc c'est essentiel, effectivement, de rappeler ça. On parlait de Spinner, Dupont, voyez, ce qui est très troublant quand même. Spinner est une référence pour tous les avocats pénalistes. Et Spinner, qui est un très grand humaniste, pourtant de ce même dossier, il a eu la conviction qu'il pouvait plaider la culpabilité de Viguier, puisqu'il l'a plaidé, avec une même aptitude à défendre. Et il aurait renoncé, d'après moi, s'il avait pensé que cette thèse n'était pas à la hauteur de l'humaniste qu'il est, du grand avocat pénaliste qu'il est. C'est ça le risque, l'aléa du procès. Un type de la même qualité que Spinner a pensé qu'il pouvait plaider la culpabilité, même si lui était pour la thèse des coups mortels. Voyez l'aléa, le risque, la difficulté et la rigueur qu'il faut pour écarter la culpabilité d'un homme, et puisque là, on comprend qu'il fallait l'écarter.
La rigueur d'un film qui sort mercredi prochain, qui s'appelle Une intime conviction, merci.
Allez le voir.
Avec merci. Marina Foïs notamment, vous restez avec nous. Bien sûr, on se retrouve après pour les sorties. If you're leaving, please still say goodbye. And if you are leaving, can you leave me my silver jubilee mug, my old flag, my dark woods, my sunrise. If you're leaving, can you please say goodbye? And if you are leaving, can you leave your number up at my gates and get in the cab and wave you goodbye? I drive in the early hours down to the sea. I stand on the beach where the storms amplify all the voices that I care for. And
of a sky colored oil.
Ça discute beaucoup pendant le film, pendant le disque. Les sorties de la semaine, on va commencer par Les Estivants de Valeria Bruni Tedeschi.
Moi, j'y cours.
Oui, d'accord. Laurent, à mon avis, un peu moins. Cinquième film, donc, qui creuse le même sillon, sa vie, ses névroses, une grande et belle propriété sur la Côte d'Azur. Anna arrive avec sa fille pour quelques jours de vacances. Au milieu de sa famille, de leurs amis, des employés, Anna doit gérer sa rupture toute fraîche et l'écriture de son prochain film. Ça ressemble beaucoup à la règle du jeu dans l'intention, non?
Oui, on va y revenir. J'ai couru, j'ai vu. Dès les premières images, moi, j'ai ressenti un malaise parce que cette séance de commission du CNC, où d'ailleurs on sait pas trop pourquoi, il y a le malheureux Frédéric, grand documentariste américain Frédéric Wiseman qui est là, un peu pris en otage de cette séance d'entre-soi typique du cinéma français, enfin d'un certain cinéma français. Après un château en Italie, Bruni Tedeschi enfonce son clou, c'est-à-dire son clou familial. Donc on voit sa mère qui est jouée par sa mère. Sa sœur jouée par une autre, son beau-frère de droite joué par Arditi. Je ne vous dis pas le nom du beau-frère de droite, vous l'avez déjà compris. Son frère disparu, etc., etc. Plus effectivement, et c'est là où intervient la référence éventuellement à la règle du jeu. Plus cette fois des domestiques, le prolétariat est là. Mais alors, on est bien loin de Renoir, tout simplement parce que chez Renoir, tout le monde a sa chance jusqu'au bout, jusqu'à la fin du film. Or là, les clichés sont tels, les caricatures sont tellement présentes que personne n'a sa chance et que seuls les moments de vulgarité l'emportent sur le reste et c'est bien dommage.
Je souffre, moi j'ai lu le scénario, elle m'avait fait faire des essais, je suis une grande fan de Valeria Bruni Tedeschi qui est un maître du tragicomique, ça n'existe plus, c'est de la comédie à l'italienne, je la vénère et j'ai pas vu le film.
Allez voir le film,
j'y cours.
Très bien.
L'avocate, bonne avocate Marine. Si Beale Street pouvait parler de Barry Jenkins, Harlem, années 70, Tish et Fonny s'aiment depuis toujours et envisagent de se marier alors qu'ils s'apprêtent à avoir un enfant. Le jeune homme accusé de viol, victime d'une erreur judiciaire, est arrêté et incarcéré avec l'aide de sa famille. Tish s'engage dans un combat acharné pour prouver l'innocence de Fonny et le libérer. Il y a plusieurs façons d'évoquer le racisme au quotidien. Il y a la manière forte d'un Spike Lee, efficace en son temps, et puis il y a celle de Barry Jenkins, plus douce, plus enveloppée, dans un halo d'images et de sons diffus, mais tout aussi cruelle et efficiente. Pour preuve, il y a une scène inoubliable dans ce film. Un soir, Tish, le jeune garçon amoureux, retrouve un ami dans la rue, l'invite chez lui. Le jeune afro-américain lui raconte alors le calvaire de la prison qu'il vient de traverser. Il parle doucement, il chuchote même, en racontant les insultes, les agressions policières, la peur quotidienne, l'impossibilité de trouver un travail décent, l'absence d'avenir. Et cet échange résume toute la condition de l'humain noir dans l'Amérique des années 70. Cet ami, c'est comme un oiseau de mauvais augure qui vient dessiner le destin de Tish. Voilà une proposition puissante de cinéma en symbiose avec la littérature, puissante aussi de James Baldwin. Ça s'appelle Si Beale Street pouvait parler.
Je rappelle que M. Guédiguian a fait un film en 1980 qui s'appelle À la place du cœur, tiré exactement du même ouvrage de Baldwin, où là on entendait vraiment la voix de Baldwin à tout point de vue, là, parce qu'il y avait des extraits du livre, qui est une voix qui est à l'antithèse de ce qu'on entend là, qui est là en l'occurrence pour le film, jolie, idéale, sans aspérité, sans aucune imperfection.
Non, mais
ces personnages se regardent avec des yeux de biche, enamourés pendant tout le temps, pour montrer les choses, comme le racisme par exemple. Il faut certainement ne pas à ce point-là casser la réalité, c'est-à-dire la montrer sous un jour aussi idéal, idyllique, avec des phrases d'une lourdeur, d'un sentencieux, qui font vraiment qu'on se prend à rêver de nous rendre Spike Lee. C'est paradoxal, parce que vraiment les excès et les errances de Spike Lee, elles sont détestables, mais tant de bons sentiments tuent le discours qu'on a.
Écoutez, moi j'ai jamais ressenti une telle profondeur dans l'analyse et la description du racisme, chacun sa vision.
Absolument.
L'amour debout, premier film de Michel Dache-Martin, dans un dernier espoir, vient retrouver Léa à Paris. Ils ont tous les deux 25 ans et ont vécu vécu ensemble leur première histoire d'amour. Désormais, chacun s'emploie vaille que vaille à construire sa vie d'adulte.
Oui, le cinéaste place délibérément son film sous le patronage de Jean Eustache, c'est pas mal, hein, La maman et la putain notamment, avec la présence absolument, je dirais, malicieuse et tutélaire de Françoise Lebrun, en quelque sorte dans son propre rôle, et ça c'est très très plaisant, mais on songe aussi évidemment à Romer, parce qu'il filme Paris très très bien ce cinéaste, un peu comme le fait Michael Herse dans Amanda récemment, il y a une attention au paysage parisien qui est très très belle, et puis il y a aussi surtout une attention aux intermittences du cœur, de ces jeunes femmes, de ces jeunes hommes qui sont en formation, qui entrent dans la vie. Et ça, L'amour debout le rend très très bien.
L'intervention de Fred Grivois, 1976, à Djibouti, dernière colonie française. Des terroristes prennent en otage un bus d'enfants de militaires français et s'enlisent à une centaine de mètres de la frontière avec la Somalie. La France envoie sur place pour débloquer la situation une unité de tireurs d'élite de la gendarmerie. Cette équipe va mener une opération à haut risque qui marquera la naissance du GIGN. Ou comment s'emparer d'un sujet politique sans le traiter pour réaliser un film d'action burné en copiant mal les films américains des années 70, split screen et tout le touti, sans parler de la caractérisation basique primaire des différents membres du GIGN.
Oui, personnellement, la question de savoir comment est né le GIGN, j'aurais pu vivre toute ma vie sans que quelqu'un y réponde. Hein. Honnêtement, est-ce qu'il faut aller voir ça au cinéma ? J'en suis pas certain. Et quand on sait que la référence du cinéaste, c'est La chute du faucon noir, le film le plus raciste et le plus violent de Ridley Scott, on n'est pas certain que ça soit la bonne référence.
Un grand voyage vers la nuit de Big Gun. Liu Wangwu revient à Cali, sa ville natale, après s'être enfui pendant plusieurs années. Il se met à la recherche de la femme qu'il a aimée et jamais effacée de sa mémoire. Un long poème visuel énigmatique.
Oui, énigmatique, c'est presque gentil.
Oui, c'est
moi, je dirais le et ennuyeux. Voilà, c'est ça. Je trouve le bon qualificatif.
Mais c'est une ennuyeux. Purge.
Alors,
dire.
Bon, ben voilà, très bien. Et c'est dommage parce que Big Gun est un cinéaste. Hein. C'est-à-dire que du cinéma, il y en a, mais alors porté à ce point de vacuité et de d'inanité, il faudrait vraiment qu'il passe à la vitesse supérieure.
Oui, parce qu'on aimerait un petit peu comprendre au juste un peu pactiser avec les personnages.
Par exemple, ce serait une bonne idée.
Qu'est-ce qu'on a encore fait au Bon Dieu de Philippe Chauvron ? Fallait-il le refaire ?
Mon Dieu, le 2. Alors déjà dans le premier, on nous expliquait que les gendres, l'un est musulman, l'autre juif, le troisième chinois, etc. Et musulman, oui, je l'ai dit, embrassaient en quelque sorte dans une scène incroyable la religion catholique. C'est-à-dire que tout allait bien dès lors que ces gens-là, qui avaient une autre religion au départ, pouvaient chanter tous ensemble dans une église catholique. Bon, ça c'était fait, incroyable façon d'intégrer les gens. Et là, cette fois, on revient. Alors ce sujet religieux est traité. Là, on nous dit comment vont-ils s'intégrer à la France, parce que a priori ils ne sont pas bien intégrés, ils ont tous envie de partir. Donc comment s'intégrer à cette France, la France dont on nous dit par ailleurs qu'elle est enquiquinée par la CGT, par les grèves, et avec cette réplique incroyable à un moment, le problème de la France c'est pas le président, c'est son peuple. Alors là, franchement, entendre ça dans une salle de cinéma, maintenant, là, en 2019, alors que se passe chaque semaine des choses dans les rues, c'est proprement incroyable. On espère que ce film ne fera absolument pas le score qu'il a fait dans sa première version. C'est pas un film, c'est une pompe à fric.
On va finir par Minuscule 2, Les mandibules du bout du monde, de Thomas Zabot et Hélène Grimaud. Ça, c'est l'animation 100% made in France, brillante. Les images de synthèse, les insectes collés sur des lieux réels. On avait déjà beaucoup aimé le premier opus de ces coccinelles. Cette fois, l'une d'entre elles se retrouve piégée dans un carton à destination des Caraïbes. L'enjeu sera de reformer l'équipe de choc. La coccinelle, la fourmi et l'araignée. Nouveau monde, nouvelle rencontre. Non seulement c'est beau, mais c'est drôle, c'est poétique. C'est ambitieux aussi dans le propos écologique et la morale jamais surlignée sur l'ouverture à l'autre. Allez-y sans crainte. C'est notre Pixar à nous.
Hélène Giraud.
Oui, Hélène Giraud, qui est la fille de l'autre, et Thomas Zabot. Un festival, Laurent.
Oui, un festival. Ben, vous irez à Nice, à Cannes, pardon, tout près, la semaine prochaine pour voir...
Oui, le festival de Cannes, au mois de mai.
Non, mais pas encore, Marina, pas tout de suite. Le festival du film italien pendant 10 jours, avec des films récents, des films anciens, des avant-premières, voilà.
Sinon, vous irez lundi prochain à Paris, à 19h30, au De Mago. Jean-Pierre Mocky, notre cher Jean-Pierre Mocky, va signer son livre. Jean-Pierre Mocky, une vie de cinéma. Marina Foïs, c'est ce soir la fin de la pièce.
Oui, c'est la dernière des idoles
De Christophe Honoré.
Donc ça veut dire que vous aurez le temps d'aller voir.
Mais il y aura une suite. Ouais. Enfin, d'autres représentations.
Alors,
on
devrait reprendre à l'Odéon printemps 2020.
Tant mieux.
Ça veut dire que vous avez le temps. Parce que je suis allé le voir, c'est merveilleux au théâtre de l'Atelier, Samy Fray, dans Premier Amour de Samuel Beckett, sa présence, sa voix. Ouais. C'est comme s'il inventait le texte devant nous. C'est extraordinaire. C'est jusqu'au 3 mars. Laurent, les cadeaux.
Marina Foïs, vous votez au César. On ne vous influence absolument pas, mais on vous offre.
J'ai voté hier.
Vous avez voté? Bon zut. le DVD de Scheherazade.
Ah oui, je l'ai vu déjà. Scheherazade, très bon film.
Qui concourt pour trois prix. Premier film, meilleur espoir masculin, meilleur espoir féminin. Ouais. Effectivement, c'est chez Advita, mais c'est un très très beau voyage très dur dans les quartiers de Marseille. Et puis...
Très dur. Mais qui le message est quand même lumineux.
Ouais, oui.
Beau et lumineux. Vous avez tout à fait raison. Oui. À Stéphane Durand soufflant, nous allons offrir Venez donc prendre le café chez nous. C'est une invitation, c'est un film merveilleux d'Alberto Latuada avec le génial Hugo Tognazzi et c'est chez Tamasa. Et puis, pour vous, Maître Saint-Palais, eh bien, ce sera un film de Jacques Audiard qui est en compétition pour les Césars également. Le nouveau Jacques Audiard, Les Frères Sisters, qui est un western à la sauce Audiard chez UGC.
Merci voilà beaucoup. Vous. Je vais vous confier le générique. Alors attention, c'est Marina qui va commencer. Merci à tous. Unanime conviction d'Antoine Rimbaud sur mercredi prochain. Disparition d'une femme, édition de l'Olivier pour vous, Stéphane Durand soufflant. Et merci vraiment aussi à Christian Saint-Palais.
Merci à tous les trois.
C'est à vous, je vous fais signe.
C'est une émission inspirée par tous les films de cinéma.
Il y a des réalisateurs et des acteurs.
Il y a aussi des scénaristes et des chefs opérateurs.
Les prises de vue sont des prises de son.
Sporto Cantès a écrit la musique du générique.
Les morceaux ont été choisis par Muriel Pérez.
Hugo Combes s'est occupé de la préparation.
C'est une émission réalisée par Céline Hilla.
Elle est produite et présentée par Christine Masson et Laurent Delmas.
Et moi, Marina Foïs, j'y étais, tout simplement, très modestement, humblement.
Et moi, Stéphane Durand soufflant, j'y étais aussi.
Et moi, Christian Saint-Palais, j'y étais.